Bienvenue chez CEO,
le podcast qui décrypte les codes du monde de l'entreprise
pour la jeunesse étudiante.
Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez CEO. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je suis accompagné de mon confrère, Pierre-Damien Fougou, chargé de TD, doctorant en droit bancaire et formateur en art oratoire.
Bonjour Tom Brel, c'est un plaisir pour moi d'être là, accompagné de mon confrère, toi Tom Brel, qui est aujourd'hui intrapreneur à Auchan, tu es intrapreneur du groupe Auchan, tu travailles aussi en alternance, en formation pour être directeur d'entreprise, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et alors aujourd'hui on ne parlera pas forcément de ton voyage en Côte d'Ivoire, même s'il y a peut-être certains internautes qui n'ont pas eu écho de cela. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit récapitulatif de ton voyage en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse enchaîner?
Pour faire court, en fait, j'étais dans le cadre d'un projet entrepreneurial, pour valoriser en fait la culture africaine à travers le monde. Donc l'objectif, c'était en fait de pouvoir agir en amont la chaîne de valeur auprès des producteurs pour créer en fait des coopératives afin de pouvoir en fait commercialiser ces produits à travers le monde.
Parfait, merci.
Alors aujourd'hui, on est accompagné de Sandra Mputu pour les intimes, amazonienne d'Afrique, plus précisément du Cameroun. Je te laisse te présenter.
Oui, bonjour Pierre, bonjour Tom. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui à vos côtés. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Alors effectivement, Sandra Mbutu, pour les intimes, Sandra Mzé, comme tu l'as très bien précisé. Écoutez, pour ma part, je suis une étudiante finalement lambda, hein, comme tout le monde, mais j'ai fait le fou pari d'emprunter la voie du droit. Voilà. Donc je suis une juriste actuellement. J'ai commencé plus précisément par une classe prépa littéraire. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a traversé l'esprit, mais j'aime beaucoup la littérature, sachez-le. Donc c'était à Bordeaux et de formation première. Et ensuite, je suis partie à la faculté de droit. C'était un choix mûrement réfléchi, mais je voulais passer par les classes prépa parce qu'elles permettaient d'acquérir un niveau en fait, et une autonomie qui m'ont été hyper précieuses ensuite à la faculté. Donc j'ai souffert pendant un an et puis je suis partie en première année de droit à la faculté de Bordeaux, donc pas très loin de cette radio. Je me suis pas forcément hyper épanouie, on va dire, sur mes études, en tout cas en licence. Alors attention, je me suis épanouie intellectuellement, mais ça a été assez compliqué en tant qu'étudiante d'arriver dans cette grande faculté où la compétition était quand même assez rude. Donc je me suis rapidement créé un groupe d'amis pour survivre à ces 3 années de licence. En suivant, j'ai continué avec un master 1 de droit pénal et sciences criminelles. Donc je suis pénaliste, voilà, oh. Tout ce qui est infraction pénale, crime, délit, je le dis avec légèreté, mais en réalité c'est des matières qui sont très, très humaines et très dures,
hein, ouais, très lourdes,
mais très intéressantes à étudier et surtout à pratiquer. Donc j'ai rapidement voulu faire des stages aussi pour me mettre en pratique. Et dernière étape, mon master 2 à Paris en droit privé cette fois-ci, qui m'a permis de faire un stage justement à la Cour d'appel de Paris en alternance et découvrir le métier de magistrat. Donc actuellement, je suis juriste au parquet de Bordeaux, où je travaille justement avec les magistrats. Je fais le travail d'un petit substitut du procureur de la République sans en avoir encore le titre, pour in fine passer en interne la magistrature.
Ok, très intéressant tout ça. Un parcours extrêmement complet. Surtout, cela montre une certaine rigueur dans ton travail, une certaine discipline. Tu as énoncé beaucoup de choses. Alors déjà, avant même d'entamer certaines questions, il faut qu'on rappelle quand même le thème d'aujourd'hui. Parce que avec CEO, on essaye de donner un maximum de codes aux étudiants dans le milieu étudiantin, mais également dans le milieu professionnel. Et nous, parce qu'on est dans ce milieu étudiantin, moi particulièrement, et lui donc dans le milieu étudiantin, de par ce qu'il fait, on arrive à avoir d'une certaine manière des prismes différents qui nous permettent de donner des conseils qui sont basés sur la pratique et pas uniquement sur la théorie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui tu es la personne phare vers qui il faut se tourner pour avoir des conseils professionnels. Et ces conseils professionnels aujourd'hui vont porter sur un élément dont on ne parle pas assez. Parce que généralement, Tom, quand on en parlait, on le disait, on pense généralement le monde un peu comme un monde de bisounours.
Ouais.
En disant que voilà, dès qu'on demande, on donne directement, on donne automatiquement. Les choses sont linéaires et cela nous a été généralement inculqué aussi à cause de la scolarité. Je dis à cause, mais c'est juste un fait. Ce n'est pas malheureux, ce n'est pas un fait heureux. C'est juste un fait, c'est logique. Avec la scolarité, les choses sont généralement linéaires. On travaille travaille suffisamment, on réussit au cas contraire, etc., avec d'autres éléments d'aléa. Mais on ne prend pas en considération certains rapports que l'on peut avoir à l'égard de nos supérieurs, à l'égard de nos collègues, etc. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de parler des rapports de force en milieu professionnel. Bien évidemment, on parlera de tout, de ceci précisément, mais également d'autres éléments qui t'ont permis, toi également, aujourd'hui, avec ce parcours-là, d'être épanoui dans ce que tu fais, de savoir que ce que tu fais a du sens et surtout de donner des conseils aux personnes qui nous écoutent afin que ces personnes-là puissent se dire « Ah, voici ce qui se passe réellement lorsqu'on est dans le milieu professionnel. Voici comment est-ce que je dois m'armer afin de pouvoir m'en sortir d'une certaine manière. »
Oui, c'est assez intéressant quand tu parles de l'école parce que sur ces rapports de force, j'ai l'intime conviction qu'on nous arme pas assez. En fait. Et ce rapport de force, à mon sens, il démarre dès nos études supérieures. Ouais. J'ai eu le sentiment de ne pas avoir les codes quand je suis rentrée en prépa littéraire, à titre d'exemple. Je suis arrivée avec beaucoup de générosité, beaucoup d'envie de travailler en groupe. Et en fait, je me suis confrontée rapidement à un esprit de compétition, un individualisme qui s'inscrivait en fait dans cette démarche de prépa, de concours aux grandes écoles. Et je n'avais pas du tout les codes. Aussi bien, on va dire, dans ma façon de m'exprimer, d'écrire, mais aussi de me comporter, en fait. Ouais. Avec mes camarades et avec mes professeurs, je gérais très moyennement mes émotions également. Je reviendrai sur ce sujet, puisque je pense que c'est important. Donc, il y a eu un vrai décalage, et c'est le premier obstacle, on va dire, que j'ai pu rencontrer. Néanmoins, ces expériences m'ont permis d'acquérir des codes, et ensuite d'être plus armée par rapport au rapport de force dans le milieu professionnel. Parce que je voulais engager mes études dans des milieux élitistes, et il fallait rapidement que je m'adapte, que je m'imprègne de ces codes, que je me les approprie, sans me perdre en route. Mmh. Et donc, dès la phase de prépa, j'ai commencé à observer, analyser, et ce qui m'a servi ensuite dans mes études de droit à davantage être rigoureuse, comme tu dis, mais être peut-être un tout petit peu plus individualiste sans me perdre non plus, parce que je ne pouvais pas me dénaturer. Totalement. Et ensuite, dans le milieu professionnel, gérer mes émotions, gérer mon ambition, gérer mes rapports aux autres sans me perdre en route et essayer de ne plus être du côté du non-sachant, du côté du sachant. Mmh. Et ça change tout.
Ok.
Et comment tu as réussi à avancer malgré le fait qu'il y a une forte compétitivité dans cet environnement ?
Alors, dans mes études de droit, c'est mes amis. Je me suis créé rapidement un groupe d'amis, alors de deux personnes initialement, parce que ça, je le dis à mes étudiants aussi, puisque je suis chargée de TD aussi à la faculté de droit. Ouais. Entourez-vous de quelques personnes, pas besoin d'avoir un grand groupe d'amis, parce que généralement on dit « oui, j'ai plein d'amis, on sort le jeudi soir, on joue le vendredi soir », mais en fait, ouais, on se désintègre et on ne s'intègre pas à la faculté.
Ouais. En plus, c'est des amis généralement de la forme plutôt, ouais, pas qui vont nous accompagner. Oui.
Mais c'est normal, on est jeune, on découvre le milieu universitaire, donc on est tout foufou, on veut faire la fête, et je ne peux pas blâmer ces personnes, puisque je suis moi-même quelqu'un qui aime la fête, mais il faut trouver un juste équilibre, et ouais, surtout, il faut penser à soi. Mm-hmm. Donc, j'ai réussi à me constituer vraiment deux amis que j'ai encore aujourd'hui, c'est dans le milieu professionnel, et on s'est tiré vers le haut en étant très rigoureuse, en travaillant, en se tenant aussi moralement vers le haut. Et ensuite, dans le milieu professionnel, finalement, la mécanique s'est également mise en œuvre, c'est-à-dire que j'ai réussi à trouver des personnes avec qui ça matchait en termes de valeurs, mais aussi de force de travail, de compréhension dans le sacrifice qu'on fait pour les carrières qu'on a envie d'embrasser. Et forcément, ça rapproche. Donc, j'ai réussi à créer des amis. Alors, pas beaucoup, hein, mais c'est des amis à vie, je pense.
Après, c'est la qualité par rapport à la quantité. Et après, tu parlais du fait de se dénaturer. Je pense que ta force, c'est le fait de savoir s'entourer des bonnes personnes et ce qui t'a permis de te rappeler qui tu es et qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie. Et je pense que c'est vraiment important de prendre cela en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'ambition, il y a beaucoup de personnes qui ont une vision. Et malheureusement, en fait, ils ont choisi un chemin de déroute qui se sont perdus. Et souvent, quand on échange avec ces personnes-là, c'est qu'ils se sont mal entourés.
Effectivement, on me le dit de temps en temps quand on me rencontre. T'as des amis d'enfance depuis très longtemps, t'as réussi à t'entourer. Après, il y a forcément des erreurs, c'est-à-dire que il y a aussi ce côté sociable de ma personnalité qui fait que j'ai pu me tromper et emprunter les mauvais chemins, faire les mauvaises rencontres. Mais après, il faut savoir aussi les évincer progressivement. Et aussi, parce qu'on ne réussit jamais vraiment seule, hein, même si bien sûr il y a notre personnalité, notre force de caractère qui peut jouer, bien entendu. J'ai fait des très belles rencontres, c'est-à-dire que moi je me suis beaucoup alimentée des personnes, des professionnels que j'ai pu rencontrer, des personnes sur ma route de manière un peu... c'était le pur hasard, voilà, et c'était surtout paradoxalement des femmes, voilà. Okay. Et ça c'est aussi en termes de rapport de force, c'était assez important pour moi de rencontrer ces femmes, parce que malheureusement j'ai pu le ressentir parfois en tant que femme, qu'on soupçonnait que je jouais parfois de mon physique, ou que j'étais plus séductrice. Et ça peut être un peu violent, surtout quand on rentre dans l'âge adulte et qu'on travaille comme une acharnée, quoi. Donc ça a été très rare, ça a été très minime, mais ça m'est déjà arrivé. Et donc le fait de rencontrer ces femmes très indépendantes, très alignées avec elles-mêmes, très féminines, très bosseuses, et qui ne se résumaient pas à être une femme, en fait. Voilà, elles étaient juristes, elles étaient avocates, elles étaient magistrates à part entière, et elles avaient des convictions, et elles se sont incarnées à travers convictions et pas à travers leur sexe, leur genre ou autre. Et ces mentors m'ont énormément apporté. Donc tu parlais d'être bien entourée, Tom. J'ai eu également des belles rencontres qui m'ont un peu guidée, beaucoup guidée.
C'est intéressant, parce que généralement on pense qu'on réussit toujours tout seul, on pense qu'on est la seule personne à vouloir impacter, ou à impacter même, alors que comme tu l'as très bien dit, tu te fais inspirer. Et ces femmes dont tu parles, par exemple, c'est parce qu'elles ont eu un positionnement clair, un positionnement aligné avec leur personnalité, qu'elles, tu ne vas pas forcer. Je me dis, généralement quand on voit des personnes qui respectent et qui sont en cohérence avec leur lignée intérieure, on respecte obligatoirement, même si on n'est pas forcément, même si on n'a pas forcément les mêmes valeurs exactement, mais au moins on respecte. Je pense que cette dimension-là, c'est quelque chose aussi qui t'a peut-être permis d'être ce que tu es, de réussir à te dire que bah, il faut impérativement que je puisse découvrir qui je suis personnellement. Et c'est vrai aussi, là on parle de rapport de force en milieu professionnel, et tu as déjà abordé la question du rapport de force de la femme également dans le milieu professionnel. Parce que certes, on peut en parler de manière générale, en parlant de, voilà, des piliers, de comment essayer de... qu'on parle de promotion ou qu'on parle juste de respect du travail que l'on fait, mais... Cette chose-là, et cela est dit depuis plusieurs années, même si ce n'est pas forcément au fait, en gros, nous, on ne le sait pas forcément parce qu'on est des hommes, parce qu'on n'a pas forcément ce rapport-là par rapport au rapport que les femmes également ont au milieu professionnel. Et comme tu le disais, c'est quelque chose qui touche également et qui existe. Donc, est-ce que, tu l'as dit, c'était assez minime de ton côté, mais est-ce que tu penses que, institutionnellement parlant, il y a des choses, on va dire, qui peut-être brident certaines femmes dans l'accès à certains postes? Ou est-ce que le rapport, en gros, très simplement, est-ce que le rapport de force en milieu professionnel d'une femme par rapport à un homme, est-ce qu'il est différent, à ton avis?
Je pense qu'il y a, déjà une première chose à avoir en tête, c'est que ça dépend le milieu aussi. Mmh. Nous, on est dans le milieu du service public. Donc on est peut-être un peu plus épargné que dans le milieu privé. Okay. Je ne pourrais pas parler de ce que je ne connais pas. Objectivement, je pense que oui, il y a une différence concrètement. Et même dans le milieu du service public, dans le milieu dans lequel je connais, enfin dans lequel j'évolue et que je peux connaître un peu mieux, c'est les postes à responsabilité. Ils sont peu occupés par des femmes. Donc on va avoir beaucoup de magistrats de femmes, à titre d'exemple, mais plus on monte dans la hiérarchie, plus les postes à responsabilité vont être occupés par des hommes, comme les chefs de juridiction, les chefs de cour. Cependant, ça commence quand même à s'inverser, parce qu'on voit de plus en plus de femmes magistrates, chefs de juridiction. Et justement, c'est ces femmes qui m'ont énormément inspirée. J'ai eu vraiment le privilège de travailler pour la première présidente à la cour d'appel de Bordeaux, dont le parcours est remarquable. Et qui prouve que les choses peuvent quand même évoluer et la cadence peut être un peu inversée. Toutefois, ça reste minoritaire. C'est-à-dire que c'est des parcours qui restent disproportionnés par rapport à des parcours d'hommes où, effectivement, ils ne vont pas avoir peut-être toutes ces difficultés à atteindre ces postes à responsabilité. Donc oui, le rapport de force est déséquilibré. Ça, je pense que dans le service public, on est moins touché par ce phénomène, mais ça reste déséquilibré.
Et d'après toi, comment il se matérialise, ce rapport de force?
Concrètement, c'est une bonne question, mais concrètement, je pense que c'est depuis longtemps, c'est le désaveu qu'on accorde aux femmes. C'est-à-dire que on se dit, bon, ben, elles n'ont pas les épaules, ou elles ne peuvent pas gérer toutes ces responsabilités, alors que c'est vraiment se baser sur une question de sexe, de genre, et non sur la compétence, en fait. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à un genre, un sexe, alors que ces femmes sont tout autant compétentes. Je pense que c'est vraiment culturel. Et dans les mœurs, de se dire... Bon, une femme, elle va pas gérer ses émotions. Une femme, ça va partir dans tous les sens. Ça va beaucoup parler. On va vraiment revenir à des clichés instinctifs, basiques, alors qu'on est en pleine évolution. Mais ça prend du temps. Et une femme, non, peut gérer ses émotions. Une femme peut gérer des situations de crise d'envergure. Une femme peut gérer des hommes aussi. Il y a ça aussi. Est-ce que les hommes sont prêts à accepter qu'une femme les dirige ? Donc, moi, j'ai la chance de diriger une petite équipe de 11 anciens gendarmes et ça se passe bien. Mais vous voyez, j'avais quand même cette appréhension. Mmh. Est-ce qu'ils vont accepter qu'une femme plus jeune vienne les accompagner, en fait, aussi et les choses bougent, mais doucement. Surtout, il faut garder le cap. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire c'est perdu d'avance. C'est que les choses évoluent, mais doucement. Okay. Je pense.
Mais au-delà du fait de développer des compétences, est-ce que tu penses que la clé numéro un, c'est la gestion des émotions ? Parce que souvent, on parle souvent de développer des compétences, mais en fait, à partir du moment qu'on atteint un certain palier de responsabilité, je pense que c'est surtout la gestion des émotions qui est importante, parce que tu parlais de gestion de crise, tu parlais de prendre des grandes décisions, et je pense que la chose la plus importante, c'est cette partie-là. C'est comment gérer le doute, comment gérer le stress, comment décider en période d'incertitude. Et de manière générale, en fait, tu disais qu'on s'appuie sur des stéréotypes de la femme qui parfois peut dire oui, est-ce qu'elle serait capable de pouvoir manager et leader en période d'incertitude. Et je pense que c'est ça même le sujet principal à aborder au-delà des compétences, parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont tellement compétentes pour un poste, mais malheureusement parfois c'est la gestion des émotions qui fait défaut.
Oui, je suis totalement avec toi, Tom. D'accord avec toi, Tom. Et surtout, moi, je l'ai vu par rapport à mon parcours. À partir du moment où j'ai réussi à peu près à gérer mes émotions, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Ouais, c'était incroyable, quoi. Ouais. Et même mes amis ont vu la différence donc dans le domaine perso et ont vu le changement. Et je pense qu'il n'y a pas de clé de la réussite. J'aime pas trop ce terme, ouais, mais quand même, une des grands secrets, c'est la gestion de ses émotions. Mais dès votre cursus universitaire, c'est-à-dire comment gérer un examen, comment gérer ses révisions, comment gérer tout le reste qu'il y a à côté. Moi, j'ai du travail aussi à côté de mes études. Forcément, il y a la fatigue qui s'accumule, on est moins productif, on est plus exécrable, donc on s'enferme. Donc les professeurs peuvent nous trouver aussi un peu distants, nos camarades aussi. Et en fait, ça, c'est l'expérience aussi, de réussir à gérer ses émotions, aussi la prise de confiance également. Donc oui, je pense que tu as totalement raison. C'est là où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. La gestion de ses émotions, c'est...
Et quels sont les éléments qui t'ont permis de mieux gérer tes émotions, de faire plus de tempérance au quotidien ?
Est-ce que c'est le sport ?
Alors, sincèrement, ça a été très très long, moi, pour gérer, pour gérer mes émotions. Pour être totalement transparente avec vous, ça doit faire bien 3 ans à peine que je sais gérer mes émotions. Okay. Et effectivement, le sport, Pierre, t'as raison, m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'ai fait l'erreur à la fac d'arrêter le sport totalement.
Ah ouais, grosse erreur.
Si j'ai un bon conseil à donner, continuez le sport, mais au moins une fois, deux fois par semaine. Et le sport, l'hygiène de vie... Et surtout, m'accorder du temps pour moi aussi. C'est ce que je dis à mes étudiants, c'est la grave erreur de ne pas le faire et de rester dans cette boucle infernale, le stress, les examens, je vais rater ma vie. Alors que non, c'est plus complexe que ça et vous avez le temps aussi. Il faut s'accorder le temps et la bienveillance de prendre du temps pour soi et de parvenir à vos objectifs, mais en prenant du temps pour soi.
Ouais, je pense que parfois, même on se rend plus malheureux que l'on est, en fait, généralement. Et parfois, on se dit, ah ouais, il faut que je... Parce qu'on a un but, on ne s'oriente que sur ce but-là, sans forcément même voir ce qu'on a déjà. Donc, on se concentre plus sur ce qu'on n'a pas, en disant, oui, je veux avoir ça, pour le moment, je ne l'ai pas. Alors que bah, déjà, parfois, on a la santé. Déjà, parfois, on a des amis qui comptent, qui sont avec nous. Déjà, parfois, on a un appartement, on a plein de choses. Et donc, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est vrai, c'est un peu un aspect de gratitude de la vie, être quand même heureuse de ce qu'on a. Et toujours en tendant, en tout cas, vers ce but. C'est vrai que c'est très psychologique ou philosophique et, comme perception. Mais même de par ce que tu es en train de dire, lorsque tu dis que tu gères tes émotions parce que tu as réussi à te recroqueviller d'une certaine manière sur toi, sans bien évidemment être en autarcie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas généralement, qu'on ne fait pas. Tout simplement parce qu'on est, comme tu l'as très bien dit, dans une spirale qui nous pousse à toujours en vouloir plus. On veut avoir de bonnes notes, donc on va passer des milliers d'heures à la BU, on va essayer de s'oublier tout simplement pour un but, alors que bah, généralement, le but c'est un outil. d'une certaine manière. À mon avis, en tout cas, le but, c'est on se le fixe, mais on ne va pas forcément mourir, c'est-à-dire ou se mettre en péril pour l'atteindre, parce que si on le fait, déjà, on ne le vit pas, et après, quand on l'a, on devient aigri. Après, c'est comme ça que je vois la chose. Ça peut paraître être un discours de flemmard, parce que je totalement, surtout aujourd'hui où on dit, allez, il faut se battre pour son but. Moi, je suis totalement d'accord, et je me dis, il faut être en cohérence. Si je veux quelque chose, il faut que je sois cohérent par rapport à cela. Mais à côté, il ne faut pas oublier non plus qu'on est une personne à part entière. Et je pense également que ça entre aussi dans la gestion des émotions. Connaître ses émotions, parce que parfois on le nie. On se dit non, nous on ne souffre pas. On se dit non, on peut le faire uniquement, mais juste sur les éléments que requiert le but. Sans forcément se baser sur des éléments qui fondent notre personnalité à nous. Et je pense que c'est aussi la raison, c'est aussi une des voies par lesquelles on peut véritablement être authentique. Parce que plein de personnes peuvent devenir procureurs, plein de personnes peuvent devenir juristes, mais qu'est-ce qui fera ta particularité, ton authenticité? Quels sont les chemins qui te sont propres que tu pourras suivre par rapport à cela? Et je pense que, en tout cas, à mon avis, et de par ce que j'ai écouté de ce que tu dis, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Quand tu t'es reconcentré sur le sport, c'est parce que pour toi, le sport, c'est l'élément, c'était la chose qui te permettrait peut-être de déstresser ou de faire autre chose. En tout cas, profiter aussi des éléments qu'on a aujourd'hui sans être dans une quête perpétuelle de quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc, savoir apprécier un peu le moment présent.
C'est vrai, tout ce que tu dis, et je le partage entièrement. Après, j'ai une petite pensée quand même pour l'étudiante que j'étais,
ouais, okay.
Et qui à l'époque n'avait pas ce recul nécessaire. Et je trouve que c'est intéressant que tu en parles, parce qu'on est dans cette dynamique au niveau de la faculté, selon nos parcours et nos histoires respectives, où on se dit le meilleur est à venir.
Mm-hmm.
Et pour ça, il faut que je m'acharne, il faut que je travaille.
C'est ça.
Et peut-être que pour certains d'entre nous, c'est la seule porte de sortie. Donc en fait, on fait peser existentiellement toute notre vie sur des études.
Ouais.
Et on n'est parfois pas assez mature, on n'a pas assez de recul nécessaire pour se dire que non, en fait, comme tu dis, c'est plus néfaste de s'enfermer dans ce processus. On n'est pas forcément épanoui. Et il faut réussir à prendre le recul nécessaire, mais c'est vraiment pas évident, je pense. Ouais, en tout cas, moi, à l'époque, j'avais vraiment pas la capacité de le faire. Je jouais ma vie à chaque partiel. Donc, comment tu dire que j'étais épuisée?
Après, Sandra, c'est comme on parlait lors de l'ancien podcast sur l'échec. Je pense qu'en fait, on base toute notre vie sur une finalité qui est un diplôme. En fait, ce n'est qu'un point d'étape.
Mmh.
Et comme tu disais, dans ton parcours, tu t'es entouré des bonnes personnes, de mentors. Et je pense que c'est les personnes dans lesquelles tu t'es entouré t'ont permis d'avoir une certaine prise de recul, parce que ils se voyaient en toi. Ils se voyaient en toi à travers leur parcours, ils se disaient « Ok, mais en fait, moi aussi, je suis passé par ces difficultés, j'ai douté. » Et ça te permet ainsi d'avoir une certaine prise de recul, tu comprends mieux les obstacles, tu arrives mieux à les anticiper. Et je pense que c'est réellement important d'avoir un mentor ou des mentors dans sa vie, parce que ça nous permet d'avoir une vision plus globale, ça nous permet de comprendre davantage les obstacles qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Et dernièrement, je pense que ça nous permet de pouvoir apaiser nos doutes et nos peurs.
Totalement d'accord. Et pour exemple, il y a eu un moment où j'ai dû choisir de partir à Paris ou pas pour mon Master 2, et Paris me faisait extrêmement peur.
Paris fait peur à tout le monde. Franchement, quand je vais à Paris pour deux jours, franchement, je reviens en dépression, littéralement. Donc,
Enfin, sincèrement, j'avais pas forcément les finances. Enfin, pour moi, c'était une catastrophe, vous voyez.
Ouais.
Et une de mes mentors, c'est ça, une avocate que j'apprécie énormément, qui m'a appelée, qui m'a dit « Mais... tu rigoles, c'est génial, tu vas sortir de ton confort, moi je suis allée à cette fac, elle est incroyable, et j'ai vécu une des plus belles années de ma vie. » Donc effectivement, les rencontres qu'on fait professionnelles peuvent faire taire certains doutes, et t'as raison Tom, c'est-à-dire qu'ils sont sûrement passés par ces questionnements, ils nous le disent pas forcément, ils le sentent.
C'est bien implicite.
Ouais, c'est ça, ils le sentent, et ils se disent « bon, je la lâche pas, elle va y arriver, je la lâche pas, il va y arriver, c'est juste... là, la tempête, et il faut qu'il la traverse.
Ouais. Et je pense que c'est très bien de parler des personnes qui nous entourent, au sens, dans la mesure dans laquelle ces personnes-là peuvent nous tirer vers le haut. Mais manifestement, il y a peut-être aussi certaines personnes qui... Alors, j'aime pas l'expression « nous tire vers le bas » parce qu'après, c'est toujours un choix. Mais ces personnes qui ne nous encouragent pas forcément. Et là, je parle, on va rester dans la dynamique de rapport de force. Donc, je parle peut-être de certains supérieurs qui, soit ne nous aiment pas du tout. Et donc, il y a de la confrontation généralement. Et pour quelqu'un, on va dire un néophyte, un stagiaire ou une stagiaire ou quelqu'un qui arrive dans une entreprise ou dans un service public et qui donc est confronté à ce type de personne à cette personne qui manifestement exerce un rapport de force sur le stagiaire ou le subalterne, est-ce que tu as déjà eu à rencontrer ce genre de situation? Et si oui, comment est-ce qu'à ton avis on peut essayer de gérer? Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus uniquement la compétence qui compte, mais c'est une sorte d'élasticité en termes de comportement. Comment gérer le rapport de force lorsqu'il est à notre détriment?
Effectivement, j'ai eu à le gérer une fois. Ça a été très, très compliqué.
Ouais.
Et en fait, au départ, j'ai pris... j'étais un peu choquée de ce qui se passait en me disant, bon, il y a un vrai rapport de force qui s'instaure.
Mmh.
J'ai quand même une personnalité, j'aime quand même m'exprimer, j'aime communiquer, mais là j'en étais incapable en réalité parce que je ne comprenais même pas que ce rapport de force s'instaurait. Ça peut être très violent, on comprend pas, on est subalterne et donc j'ai subi. Enfin clairement, les premiers temps j'ai littéralement subi, j'ai rien dit, même si ça me travaillait intérieurement. Et au bout d'un moment, j'ai fini par communiquer. Alors, je ne suis pas rentrée directement dans la confrontation, c'est toujours très compliqué quand c'est avec notre hiérarchie directe, mais j'ai commencé à verbaliser, communiquer au mieux, et je me suis dit, dans tous les cas, soit ça passe, soit ça casse.
Ouais.
Si ça casse, tant pis, je recule, mais j'aurais dit les choses de manière diplomate, donc je ne me serais pas non plus mis trop en porte-à-faux. Soit ça passe et le message que j'essaye de faire passer fait son bout de chemin. Mais à un moment, il faut poser ses limites. Et j'avais appris à les poser dans le milieu personnel, dans le milieu de mes études, et jamais dans le milieu professionnel. Et je pense que c'est extrêmement dur, en fait, de le faire quand on a ce rapport de force, mais il faut le faire. Parce que on peut pas se perdre sur le milieu professionnel. Je sais que c'est hyper dur, c'est très compliqué. Et c'était une hiérarchie en plus très, très importante pour moi, mais j'ai posé mes limites.
Ouais.
Et ça a permis de débloquer la situation, en fait.
Ouais.
Je te rejoins parce que je pense que ça donne beaucoup de courage et aussi je suis passé par là. Et je pense que d'une certaine manière, les gens te testent. Les gens te testent, en fait. Ils veulent connaître tes limites et à partir du moment que tu dépasses... À partir du moment que tu ne donnes pas de limite, ceux qui créent en fait le propre cadre, et après tu subis. Et combien de personnes explosent en vol dans leur projet, dans leur parcours, parce qu'en fait ils n'ont pas eu ce courage-là, et malheureusement en fait cette frustration en fait a une conséquence sur leur vie personnelle, c'est les proches qui prennent, et en fait malheureusement le nerf du problème était en fait dans le monde professionnel. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir communiquer. Après, je pense que c'est de communiquer de manière diplomate, comme tu disais, parce que parfois, en fait, on attend que la colère nous monte. Et après, les mots dépassent notre pensée. Et je pense que ça peut avoir des grosses conséquences sur notre carrière, des grosses conséquences sur notre futur. Parce que je pense que le monde de l'entreprise, comme tu sais très bien, c'est qu'il y a de nombreux codes. Plus l'entreprise est grande et plus en fait les choses se savent. Et ça peut être très compliqué par la suite. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir le courage de poser ses limites. Et d'une certaine manière, je pense que ça permet de créer un certain respect. Parce qu'il dit, ok, c'est mon subalterne, mais il a ce courage de faire face à moi. Il a ce courage de dire les choses. Et il est force de proposition. Donc d'une certaine manière, il va se dire... Dans les périodes de doute et d'incertitude, il aura le courage de me dire les choses. Et dans de nombreuses situations, j'ai eu ce cas-là, où à partir du moment que je me suis opposé et que je dis les choses de manière constructive, cette personne-là s'est mise à m'écouter, cette personne-là s'est mise à me considérer.
Ouais, je pense que par rapport à ça, alors c'est très particulier parce que vous êtes vraiment dans le milieu professionnel. Moi, en gros, par rapport à vous, je suis encore un bambino, un bambin de la chose. Mais c'est vrai. Mais ça me fait penser à deux choses. Je me dis, la raison pour laquelle généralement on ne pose pas de limites, c'est, on en parlait même la dernière fois, c'est par rapport à la valeur qu'on pense avoir. Donc quand on est stagiaire, par exemple, qu'on est subalterne, on se dit qu'on n'a pas de valeur. Généralement, on se dit, on ne va rien faire d'autre que recevoir de la valeur, que recevoir de l'approbation. C'est la raison pour laquelle, et je pense aussi que c'est tout à fait normal, il faut passer par là. Mais est-ce que l'un des moyens également de poser des limites, est-ce que ce ne serait pas de se dire, on a une véritable compétence, on a une véritable valeur, sans bien évidemment que cela bascule dans l'ego. Mais je pense que si à un moment donné on se dit voici ce que je sais que je peux apporter, et c'est là où je te rejoins totalement lorsque tu dis qu'il faut faire preuve de, il faut avoir une force de proposition afin d'avoir une démarche constructive. Et donc je pense que ça vient vraiment avec la compétence. Un stagiaire par exemple qui sait qu'il a de la valeur, qui sait qu'il va se tuer à la tâche, qui sait qu'il va se donner, se dédier vraiment à l'entreprise, dès le moment où on lui parle mal, on va prendre un cas extrêmement simpliste, dès le moment où on lui parle mal, je pense que là, il pourrait peut-être se dire « Ah non, je sais ce que j'apporte, je sais ce que je vaux, et donc j'estime que je mérite le respect au moins par rapport à un certain respect par rapport à ce que j'ai. » Et je pense lorsqu'on fait une scolarité linéaire, on ne se rend pas du tout compte de notre valeur. Parce que notre valeur est toujours jaugée par rapport à notre niveau d'études. Donc, si on est en licence 1, on va dire qu'on n'a pas autant de valeur que quelqu'un qui est en doctorat, etc. Et donc, ça fait qu'on se dit que l'hiérarchie, elle est naturelle. Alors que je pense que ce sont d'autres choses, des compétences. Peut-être qu'on a une vision des choses. Et tant qu'on travaille pour le même but, il faudrait qu'on se fasse respecter. Mais tant qu'on n'a pas en fait cette prise de conscience de cette valeur interne qu'on a, on acceptera absolument tout et on ne pourra même pas poser de limites comme vous le dites.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Pierre, parce que ce qui m'a poussé aussi à poser mes limites, c'est que, comme tu disais, Tom, je ne voulais pas que ça impacte mon milieu personnel, okay. parce que je veux un équilibre perso-pro, mais surtout parce que je me défonçais, quoi, ouais. et que je bossais, ouais. et que je savais que mon travail était quand même un minimum qualitatif, voire bien, c'est tu ça. Vois. Et c'est ce qui m'a donné de la force, c'est d'avoir cette confiance, en fait, dans mon parcours ouais. universitaire, dans les autres expériences professionnelles aussi que j'avais eues avec d'autres professionnels. Et je me suis dit, mais t'es pas là par hasard. Mmh. Et souvent, quand vous arrivez à obtenir vos objectifs, il faut s'en rappeler. On n'est pas là par hasard. On nous a pris. Et donc, on a quelque chose à apporter au service. Exactement. Et maintenant, il faut avoir les ressources nécessaires pour l'exprimer, pour se défendre, pour se vendre, même une fois en poste. C'est-à-dire mmh. que moi, je me souviens très bien, mes proches, quand j'ai pris ce poste, ils m'ont dit, bah, c'est très bien, ma chérie, mais tout est à faire encore. Ouais. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut toujours... avoir en tête qu'il faut faire ses preuves et une fois qu'on les a faites, on prend confiance aussi en notre compétence, comme tu mm-hmm. dis, et on a cette force pour poser ouais. ses limites.
En gros, la compétence principalement, parce que dès qu'on a... en gros, tu es en train de nous dire que il faut toujours travailler sur la compétence.
Non, il y a aussi le savoir-être okay. qui est extrêmement important.
D'accord.
Et c'est là où je rejoins sur cette idée de code mm-hmm. que j'ai réussi à acquérir petit à petit dans mon mm-hmm. cursus. Mais vous pouvez avoir toute la compétence que vous voulez, toute la frappe de travail, mm-hmm. mais si vous n'avez pas le savoir-être avec le monde professionnel dans lequel vous évoluez, c'est compliqué. Ouais. Donc, il y a un savoir-être aussi. Ouais, c'est très subtil.
C'était même ma prochaine question. C'était à part la compétence, parce que de toute façon, je me dis, bon, si on reste juste sur le savoir-être, toute la compétence du monde ne permettra pas uniquement d'être épanoui, ou tout le savoir-être du monde non plus, parce que l'un va avec l'autre, je pense. Je pense que les deux sont complémentaires. Parce qu'une personne qui est extrêmement à l'aise socialement, à un moment donné, on va quand même lui demander une certaine compétence. Une personne qui a toute la compétence au monde, du monde, à un moment donné, on va lui demander quand même de savoir être dans une équipe. Donc, je pense que les deux choses, comme tu viens de le soulever, sont complémentaires. Donc, à ton avis, à part la compétence, donc, on va peut-être un peu détailler ce savoir-être, quels sont d'autres éléments qui te permettent d'être à l'aise dans ton boulot sans avoir de rapport de force qui sont à ton détriment?
Il y a une chose que j'ai construite progressivement pour atteindre aussi ce savoir-être, c'est de jamais laisser personne vous dire que vous allez échouer, en fait, okay. dans quelque domaine que ce soit, si vous avez l'intime conviction que vous pouvez y parvenir. Et aussi attention aux étiquettes qu'on vous met. Voilà. Okay. Attention aux personnes qui vous rencontrent et qui essayent de vous mettre dans un moule plutôt qu'un autre, ou qui ont des préjugés sur vous. Je pense qu'à partir du moment où on est aligné avec soi-même et on sait petit à petit qui on est, on peut aussi plus facilement évoluer dans ces milieux, tout en étant serein. Il ne faut pas accepter un rôle qu'on essaye de nous faire jouer. Okay. Donc oui, c'est la petite jeune, elle n'a pas les épaules. Ok, vous écoutez, mais testez-vous, challengez-vous ouais. et faites-vous votre propre opinion sur vous-même, en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé de toujours prendre des petites claques ou des grosses claques et de réussir à me construire, en fait, encore et encore, et me moduler et continuer à peaufiner ce savoir-être. C'est-à-dire rester sereine, même si c'est Bagdad dans ma tête, on reste sereine et on continue à avancer. On continue à s'alimenter des personnes ressources, des mentors, de ses proches, de ses amis. Et en suivant, les rencontres, aller quand même vers l'autre. Comme tu expliquais, quand tu intègres un milieu professionnel, tu intègres une équipe.
C'est ça.
Et donc, il ne faut pas faire semblant, il faut s'intéresser à cette équipe. Et y a des personnes avec qui ça va fonctionner, très bien, d'autres moins, mais il faudra rester diplomate quand même.
Totalement.
Et on est quand même dans le milieu dans lequel j'évolue, on est quand même on reste comme dans un milieu humain quand même. Donc, ouais. il faut créer ce relationnel et il faut rester intègre à soi-même, quoi. Il ne faut pas se perdre. Il faut être toujours écouter la petite voix de sa conscience, il ne faut rien lâcher.
Il faut être aligné, quoi.
Ouais, il faut être aligné. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fois à se moduler aux codes qui sont les nôtres, du coup, par notre milieu professionnel, et se garder aussi en route, garder ouais. notre authenticité.
Totalement.
Et c'est ce qui fait après notre singularité, je pense.
Ouais, bien sûr.
C'est ce mélange.
Bien sûr.
Après, je pense même que on parle d'authenticité, de singularité, de compétences, mais je pense que c'est important de passer par les épines du parcours professionnel, parce qu'on souvent se dit oui, il faut pour éviter, mais non, je pense que quand on est parent, on dit aux enfants oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais d'une certaine manière, on a appris en tombant, on a appris en échouant, on a appris en doutant, Et je pense que c'est ça qui nous a permis d'être la personne qu'on est. Et je pense que dans le domaine professionnel, c'est important d'aller se confronter en fait à la réalité terrain, d'aller se confronter à des personnes qui nous détestent pour ce qu'on représente, pour ce qu'on est, tout simplement, pour les compétences qu'on a, ou parce qu'on est trop jeune, on a des grosses responsabilités. Et je pense que c'est la partie importante pour se construire en tant que personne. Je pense que c'est souvent le domaine qu'on parle le moins, mais je pense que c'est la partie qui nous permet de se construire le plus rapidement possible. Malheureusement, ça fait mal. Malheureusement, je trouve ça extrêmement dur. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez de cette partie-là. Et dans le domaine professionnel, souvent, on parle comment éviter les obstacles. Moi, je pense que non. C'est comment accepter et avancer malgré les obstacles qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on fait souvent la différence entre être positif et être optimiste. Mais être optimiste, c'est avancer en tenant compte du parcours. Et c'est vrai que j'appuie souvent sur ça. Et je pense que les meilleurs mentors que j'ai rencontrés, c'est qu'ils m'ont dit, tu vas en baver, tu vas douter, tu vas vouloir abandonner chaque jour, mais continue. Et je pense que c'est important de prendre ça en compte. C'est pas le fait de éviter tous les obstacles qui nous permet d'être la personne qu'on est, c'est de comprendre qu'avoir telle ou telle expérience qu'on va rencontrer sur le chemin et de continuer à avancer. Et c'est sur cette expérience-là qu'on va apprendre à se connaître, comme tu disais, Sandra. Et je pense que tu sais qui tu es, c'est grâce à ces expériences-là, parce que tu dis, bah ok, par rapport aux autres, j'ai réussi à avancer. Donc je me suis rendu compte que j'avais cette force de caractère, j'avais cette rage de vaincre. Et je pense que sans ces expériences-là, tu n'aurais pas su ce que tu avais au fond de tes tripes.
Oui, totalement, Tom. Je te rejoins sur ça, sur les expériences et sur le fait que des fois... sa forme hein, d'échouer et de rencontrer ses obstacles. Et je voulais juste rajouter aussi de réussir à trouver un équilibre entre poser ses limites, savoir ce qu'on vaut et aussi écouter. Moi aussi, j'ai eu des mentors, sûrement comme les tiens, Tom, voilà, qui ont joué carte sur table sur moi et qui ont été très, très sincères, très explicites. Donc il faut aussi savoir écouter sur le savoir-être. C'est-à-dire que quand on travaille mal, bah, il faut l'entendre.
Ouais,
et ça nous permet de progresser. C'est un obstacle, certes, ça fait mal. C'est un peu notre ego qui en prend un coup. On ne va pas se mentir, il y a ça aussi. Gérer son ego,
c'est clair.
C'est important. Mais au moins, ils ont la sincérité de le dire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une hiérarchie ou des mentors qui vous disent « Oui, c'est très bien. » Et puis « Merci, au revoir. » Parce que c'est là où on voit la valeur qu'ils vous accordent aussi.
Ouais,
quand c'est bienveillant, quand c'est constructif, là, c'est pas bon. Donc, il va falloir que tu progresses.
Ouais.
Et ça, c'est bien aussi. Il faut l'entendre et il faut l'accepter. Des fois, c'est dur.
Ouais, j'imagine. J'imagine quand tu te tues peut-être pendant une semaine à travailler sur un dossier, après, on te dit non, là, c'est pas bien du tout.
C'est
après, c'est normal, je me dis. C'est pour ça aussi ce que tu dis. Savoir jauger l'ego, savoir en tout cas jongler avec notre ego et la véritable valeur qu'on réussit à fournir, c'est un travail pratiquement même de toute une vie parfois. Parce qu'il faut que nous-mêmes, on puisse savoir que ce qu'on fait, c'est mal. Alors qu'il y a toujours un biais, je pense, qu'on a en se disant que plus on passe du temps sur quelque chose, plus on met de l'énergie. Et cela est général. On pense qu'il y a une corrélation entre ceci et le résultat. Alors que parfois, ce n'est pas forcément le cas.
Ouais.
Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi écouter. En gros, toujours être convaincu de sa valeur, mais quand même aussi beaucoup écouter. J'aimerais poser une autre question pour qu'on ait... c'est toujours dans le cadre des rapports de force en milieu professionnel. Alors là, je pense que tu as déjà répondu partiellement. En parlant des mentors, comment est-ce que tu gères les relations professionnelles? C'est-à-dire, est-ce que pour avoir un rapport de force qui est donc à ton profit, est-ce que y a une certaine manière ou un certain conseil que tu pourrais donner par rapport à la gestion des relations professionnelles? En gros, est-ce que tu t'approches des personnes qui peut-être sont bien placées ou ce genre de choses? Parce que ça peut arriver, on se dit, cette personne a beaucoup de ressources, donc ce serait quand même pas mal que j'essaie d'intégrer son réseau. Parce que le réseau est toujours quelque chose, en tout cas, de positif, d'une certaine manière, tant bien évidemment qu'on sait l'utiliser, le manier. Donc, comment est-ce que toi, tu vois le rapport entre réseau et rapport de force? Est-ce que tu utilises aussi un certain réseau? Est-ce que tu essaies de construire ton réseau? Ou comment est-ce que, quel est ton rapport par rapport à la chose?
Ok, c'est une question hyper intéressante. C'est vrai que moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui calcule comment j'allais construire mon réseau.
Okay.
C'est-à-dire que j'avais zéro réseau. Donc, je me suis lancée à cœur perdu en posant des CV un peu partout, dans les cabinets d'avocats. Et ce n'était pas très, très concluant, je ne vais pas vous mentir. Et Et j'ai pas calculé, en fait. Ça s'est fait assez naturellement et ça s'est fait, je pense, grâce à ma personnalité et à mon authenticité. Mmh. Et c'est même, ça a été même très compliqué parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'autorité, de base.
Ok.
Donc, je me suis dit comment je vais survivre dans ce milieu, en fait. donc, ça a été extrêmement compliqué et je rejoins à ce moment-là la question du match. C'est-à-dire okay. que je pense que je suis tombée sur des personnes qui... Il y a quelque chose qui les touchait en moi sur certains traits de caractère. Et donc, forcément, j'ai su un peu mettre mon ego de côté, écouter ces personnes, m'enrichir d'elles. Mais j'ai jamais vraiment calculé en réalité. Moi, je pense que si je dois donner un conseil pour répondre explicitement à ta question, hein, c'est qu'il faut être audacieux. Je sais que c'est un mot que Tom adore.
Ouais.
Être audacieux.
T'as l'audace.
Exact. et puis y aller au culot, quoi. Il faut être authentique.
Ouais.
Il faut franchement, dans le milieu dans lequel j'évolue, il vaut mieux quand on n'a pas de réseau de montrer qu'on en a dans le ventre, qu'on en veut. Qu'on travaille et qu'ensuite on développe notre savoir-être par aussi l'humain, tout simplement. Voilà, c'est pas juste des personnes qui ont des titres et qui sont bien placées, c'est des humains avant tout. Donc on va aller les rencontrer en tant qu'humains à part entière. Et puis même, ça peut être mal interprété de venir juste par intérêt de rencontrer ces personnes.
Totalement, oui.
Et ça peut les blesser parce bien que sûr. C'est des humains d'abord. Et moi, j'ai d'abord voulu rencontrer ces humains. Et je vous avouerai qu'à mes risques et périls, parce que moi, c'est pas le titre de la personne qui me bouleverse, c'est qui elle est. Mm-hmm. Et pourtant, des fois, il y a le titre accroché à cette personne. Ouais. Donc, des fois, j'ai joué un jeu dangereux. Mais je voulais pas me perdre. Et je voulais pas, si vous voulez, juste par intérêt, faire des flatteries à quelqu'un. C'était pas concevable par rapport à toute la force de travail et tout ce que j'avais voulu construire en tant que femme, en tant que juriste. Et si je suis avec toi, c'est que tu crois en mon travail avant tout et à mon savoir-être. Et donc, j'y suis allée au culot, j'ai posté des CV, des lettres de motivation et je leur ai montré que j'en voulais, en fait.
Okay.
Que j'en voulais. Et après, ça se peaufine. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont... J'ai certaines personnes qui sont devenues mes amies, mais parce que je me suis vraiment intéressée à qui elles étaient, quoi.
Ouais.
Du coup, ça veut dire que c'est beaucoup une question de posture, alors, pour évoluer dans un monde professionnel, parce que j'ai l'impression que ce qui est important, c'est de faire le premier pas.
Oui.
Et souvent, on est là, on se dit, oui, pour s'armer dans le monde professionnel, il faut qu'on soit compétent. Mais
bien
non,
sûr.
En fait, parfois, c'est juste faire le premier pas, être force de proposition, et demander l'avis de l'autre.
Mm-mm.
En se disant que, oui, tu peux apporter quelque chose en complément. Et grâce à ça, en fait, ça crée du lien. Moi, malheureusement, heureusement, j'ai reçu des travers, parce que, certes, t'as une super idée sur le papier, et du fait que tu ne demandes pas l'avis à tes pairs, bah en fait, t'arrives pas à fédérer, en fait. Et c'est le jour où j'ai pris conscience de ça que ça a permis de co-construire le projet et ça a permis de créer la première pierre édifice de notre relation. Et je pense que dans mon professionnel, quand on est jeune, qu'on est diplômé et qu'on a un poste à responsabilité, je pense que c'est hyper important de prendre cela en compte, c'est de se dire, ok, j'ai un œil neuf, j'ai des compétences qui sont assez récentes, j'ai appris les nouvelles théories, les nouveaux algorithmes, c'est bien.
ChatGPT.
Il jure que personne.
Il n'y a que ça.
Fallait s'y attendre.
C'est clair. Mais je pense que c'est vraiment important, en fait, de pouvoir, en fait, faire le premier pas vers les autres et d'aller co-construire. Et c'est grâce à cela que j'ai réussi à créer, en fait, mon premier réseau. C'est grâce à cela que j'ai réussi à créer mes premières relations. Et j'ai eu, en fait, un respect. Parce que je pense que la première compétence en termes de savoir-être à prendre en compte, c'est l'humilité.
Mmh.
Ouais. L'humilité est très importante et souvent, en fait, on l'a sous-développée et on l'incarne pas assez. Et je pense que dans ce que dit Sandra, je trouve qu'elle a peu parlé, mais elle a beaucoup agi. Mais elle a beaucoup agi dans le comportement. Mmh. Et je pense qu'on parle pas assez de la posture à adopter dans le cadre de l'entreprise. Et malheureusement, il y a tellement de personnes qui sont plus compétentes que moi, mais il y a tellement de personnes qui se sont cassées les dents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles n'avaient pas cette posture. Et je pense que c'est une posture d'étudiant, mais au-delà d'être étudiant, je pense que c'est une posture d'autodidacte. C'est rien n'empêche de pouvoir s'intéresser à des personnes qui ne sont pas forcément dans le cadre de nos intérêts. Parce que souvent, dans le monde de l'entreprise, c'est beaucoup basé sur des intérêts. Mmh. Tu es leur chef, donc ils te respectent. Non, ils te respectent, ils te considèrent par ton poste. Mais le jour que tu changes de domaine ou tu changes d'activité, ils te répondent même plus à tes SMS. Et ça, c'est important de prendre cela en compte. Et quand tu arrives à aller au-delà en fait, des intérêts et d'aller co-construire avec des personnes qui ne sont pas du tout dans ton domaine d'activité, là, tu arrives à construire un réseau conséquent dans l'entreprise.
Ouais.
Et je pense que la chose la plus importante, comme disait Sandra, de manière implicite, c'est ta réputation. L'importance de ta réputation, je pense qu'elle se construit grâce à cela.
Franchement, je vois deux choses assez différentes, mais qui sont assez complémentaires également. Alors Sandra, parce que c'est très intéressant ce que tu disais, quand tu disais qu'il faut être authentique. Il ne faut pas juste s'approcher des personnes juste par rapport à leur titre, mais il faut savoir, comme tu l'as très bien dit aussi, qu'on a une certaine valeur, qu'on fait un certain travail et ce travail mérite d'être respecté. Et de ton côté également, lorsque tu dis que, en fait, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais par rapport à un certain but qu'on s'est fixé, on peut manager, on va dire, certaines compétences, parce que c'est ça, c'est aussi ça le leadership. Dans le leadership, parfois même le leader, on ne l'aime pas forcément, mais au moins il se fait respecter parce qu'il a une certaine force de proposition et il réussit à fédérer. Et donc, ça montre vraiment deux postures assez particulières et franchement, c'est quelque chose que si on n'a pas, c'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas envisager si on n'a pas les pieds dans le milieu professionnel. Moi, par exemple, c'est pas ce que je vois. Moi, je travaille différemment. C'est-à-dire, moi, je suis un peu autonome, donc ça va encore. Tu vois, un peu. Quand je lance moi mes formations, je gère la chose assez moi-même. Et même à l'université, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. C'est plus une collaboration qu'il y a généralement. Et mais vos approches, les prismes par lesquels vous prenez la chose, vous prenez le rapport de force, le réseau également, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça permet de couvrir, de balayer quand même tout ce qu'il y a à savoir sur le rapport qu'on pourrait avoir au réseau. En tout cas, c'était une interview très intéressante. Malheureusement, on ne pourra pas faire 2 heures sur ça, même si il y a énormément de choses à dire.
C'est vrai
qu'on aurait aimé encore plus savoir... on va dire des éléments encore beaucoup plus pratiques, aller plus en fait creuser le détail même de ton activité et aussi de ta psychologie, parce que le peu de temps qu'on avait passé ensemble, tu nous as montré que tu en as dans le ventre déjà, et que c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'être là où tu es, de faire ce que tu veux et surtout d'être épanoui dans ce que tu fais. Parce qu'on peut faire plein de choses, mais dès lors, et comme tu l'as très bien relevé, dès lors qu'on n'est pas aligné à notre personnalité, dès lors qu'il n'y a pas une cohérence entre ce qu'on fait et qui on est, on se casse la tête, on se casse les dents, pour prendre ton expression, tu vois. Et voilà, donc franchement, c'est vrai, on n'a pas eu, bon, je ne vais pas dire on n'a pas eu trop de temps, c'était très intéressant.
Ouais, merci beaucoup.
C'était
concis. Deux, hein.
Non, mais merci déjà à toi d'avoir répondu à l'invitation. Généralement, on est là juste nous deux, donc on se regarde dans les yeux. chaque fois qu'on parle, c'est qu'on se comprend trop. Donc en gros, ça devient une discussion d'amis. À un moment donné, on a envie de monter sur la table et faire un truc original, tu vois. Donc, le fait d'avoir une troisième personne qui a une vision aussi différente, hein, ouais, et très complémentaire, parce que c'est ça, moi, je crois foncièrement le fait que la diversité nous permet d'avoir une bonne complémentarité. Et le fait donc d'avoir ce regard-là, de ton regard sur la chose, personnellement, moi, je trouve que c'est quelque chose que les auditeurs, il faut que les auditeurs, les personnes qui nous écoutent puissent en profiter et vont certainement en profiter. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sandra.
Merci, hein, Pierre et Tom, pour l'invitation. Merci
aussi
beaucoup.
Merci encore à la Radio Campus de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'était CEO et nous vous disons à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine.
Campus Bordeaux. 88.1.
Campus Bordeaux 88.1.